dans cette ville universitaire, intellectuelle, le Seigneur Jésus a voulu que des choses soient dites. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Je vous ferai remarquer que nous prendrons la Sainte-Seine après. Qu'elle soit l'occasion pour vous de vivre cette victoire que l'on a chantée tout à l'heure, victoire au Seigneur de la vie. Que ça soit l'occasion pour tous ceux qui ne sont pas encore baptisés, vraiment par immersion, qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur, de prendre cette victoire. Dieu ne nous rassemble pas pour que nous traînions sur des années et des mois. Dieu veut donner la victoire. Dieu a tout accompli pour donner la victoire. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Il y a des questions que Dieu pose à ces intellectuels. Mais croyez-moi, c'est par la foi que Dieu nous bénit. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pas pour nous qui avons besoin d'être sauvés. Pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, regardez bien ce verset, il a plu à Dieu, ça plaît à Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants, par la folie de la prédication. Les Juifs demandent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et je voudrais lire ce verset au chapitre 2 et au verset 2. Paul prêche donc à ces gens très instruits. Corinthe était une ville très intelligente, très intellecte. Et regardez ce que Paul dit à ces gens. « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose » que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Amen. Nous savons tous que les pécheurs, le monde, ont vraiment besoin du message de la croix. Vous en êtes tous conscients. Vous dites, mais les gens ont besoin de Jésus. Les gens autour de nous ont besoin du Sauveur. Nous vivons dans une société perdue, pécheresse, rebelle. Ce que vous voyez à la télévision, tout ce que vous voyez est le résultat de ce que les hommes ont semé. Vous savez cette prophétie, vous avez semé le vent et vous récolterez la tempête. Ce que vous voyez aux infos est exactement le résultat de ce qu'on n'a pas voulu de Dieu et où nous avons aujourd'hui les conséquences. Je ferai une étude là-dessus pour bien expliquer ce verset. Ils ont semé le vent et ils récolteront la tempête. Ne pensons pas, comme certains chrétiens, que tel parti politique pourrait mieux gérer la France. C'est impossible. Laissez-moi vous le dire, si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous cherchez peut-être une solution dans le monde. La solution, vous le savez, c'est le Seigneur Jésus. Nous le savons. Le monde a besoin d'entendre parler du message de la croix, mais je peux vous dire que les chrétiens, beaucoup de chrétiens, ont besoin de réentendre le message du calvaire. Pourquoi ? Parce que c'est une puissance de Dieu. Et ce que nous avons besoin, vous et moi, c'est de voir la puissance de Dieu. Nous l'avons lu, c'est une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Beaucoup de chrétiens se contentent de la croix pour obtenir le salut de leur âme. Et c'est déjà beau. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi tant et tant de chrétiens ne vivent pas cette merveilleuse victoire qu'on a chantée tout à l'heure? Victoire au Seigneur Jésus, victoire au Seigneur de la vie, victoire au nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi? Il y a quand même une frustration dans le cœur des chrétiens qui ne vivent pas dans la victoire. Vous vous rendez compte, ils chantent des paroles extraordinaires et pourtant ils vivent dans la défaite. Ils ne sont pas en opposition réelle, mais il y a un problème. Il y a un problème parce que les gens cherchent la bénédiction. Alors, je ne vais pas énumérer, je vais faire plus simple. Les gens cherchent la solution dans les choses du monde. Certains cherchent la solution dans la psychothérapie. Hier, avant-hier. Un chrétien nous parlait que dans une église, on fait du yoga pour que les gens se détendent. C'était avant-hier, comme me l'a dit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, de la maladie qui se trouve aujourd'hui dans l'Église, parce que les gens n'ont pris que par la croix le salut, ils n'ont pas pris la victoire. Il y a dans la prédication de la croix la victoire. Vous le croyez cela? Vous le croyez vraiment? Et c'est ça le problème. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens ont presque même mis les évangiles de côté, une fois qu'ils se sont convertis, voilà, la prédication de la croix, c'est pour les pécheurs. Moi, je vous le dis, si vous avez besoin d'une victoire, quelle qu'elle soit, c'est au calvaire que nous l'aurons. Nous les chrétiens, ce n'est pas avec ceci, avec des choses humaines, il va falloir que je fasse ça, il faut que je me détende davantage, oh, je travaille trop, il faut, les 35 heures c'est super. Depuis, vous avez vu comment les gens vont mieux depuis qu'on travaille que 35 heures? Vous avez vu comment les gens vont mieux, hein? Le message de la croix est le message qui délivre, qui libère les captifs. Certaines personnes ce matin peuvent être dans une espèce de captivité. Peut-être qu'il y a un fils prodigue ce matin qui n'arrive pas à revenir à Dieu. Est-ce que ça doit être difficile pour un fils prodigue de revenir au Seigneur, puisque sa condition est 7 fois pire que celle d'avant? Oui ou non? Est-ce que Dieu peut bénir un fils prodigue par la prédication de la croix? Si vous revenez ce matin, bien sûr que vous avez besoin de notre accueil, vous avez besoin d'affection, etc. Mais vous avez besoin de la prédication de la croix. Bien sûr que peut-être vous, 99%, oh, j'espère qu'ils seront gentils avec moi. Mais bien sûr, mais ça on va l'être. Mais mes frères et sœurs, s'il n'y a que l'affection fraternelle, ça ne suffira pas. Vous avez besoin de la prédication de la croix. C'est le message de la croix qui sauvera les gens de l'enfer. C'est quel message qui va sauver les gens de l'enfer? Vous connaissez notre message? Non, il n'y en a pas. Quel est le message qui peut guérir les malades? Quel est le message qui peut guérir les malades? Est-ce qu'il y a quelqu'un de malade ce matin? Est-ce que Dieu peut le guérir? Mais est-ce que vous croyez vraiment que Dieu peut le guérir? Et est-ce que vous croyez que nous, les chrétiens, nous pouvons aller dans une vie de victoire? Cette semaine, j'ai été travaillé par ce sujet, parce que je sais que nous courons le risque d'aller chercher la victoire ailleurs que dans le sacrifice du calvaire. Et dans l'Église du Seigneur Jésus aujourd'hui, en général, dans l'Église du Seigneur, on ne prêche plus la croix, parce qu'un petit peu comme les Corinthiens, c'est dégoûtant, on ne va pas parler de la croix, ce sang qui coule des mains, ce sang qui coule des pieds, oh non, je ne vais pas dire ça à mes enfants. Et par contre, les enfants, ils peuvent regarder des films avec de la violence gratuite à fond, c'est pas grave, il faut qu'ils se familiarisent avec la société. Voilà, il y a des chrétiens qui en sont là. Ils ne voudront pas parler du sacrifice de Jésus parce que le sang coule des mains, parce que le sang coule des pieds, mais ils sont capables de laisser leurs enfants devant des films d'une violence qui feront que ces enfants-là seront marqués et deviendront violents. Parce que c'est une loi, ce que l'on sème, on le récolte. Et si vous enseignez à vos enfants la violence, eh bien ils seront violents. C'est comme ça. L'évangile, oui, dans les églises aujourd'hui, non, prêcher la croix, qu'est-ce que les nouveaux vont penser? Mais nous sommes dans une génération de technologie, les gens, ils ont besoin de voir du modernisme, les gens, il faut que ce soit high-tech dans l'église, voilà, mais on le dit ça, je l'entends, c'est pas des blagues, je l'entends. Dans l'église, on a besoin de la présence de Jésus-Christ, et de rien qui attriste le Saint-Esprit. Si nous voulons que Dieu parle au cœur des pécheurs, mais si nous voulons que Dieu parle au cœur de l'Église, il faut le message de la prédication de la croix. Et comme il y a des chrétiens qui n'assistent qu'au culte, ils n'entendent plus de prédication sur la croix. Ils n'entendent plus de prédication. D'ailleurs, certains d'entre vous, vous le savez, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, que vous n'avez pas entendu une prédication sur la croix, parce que vous n'assistez qu'au culte, et au culte, en principe, c'est de l'édification, donc vous êtes pénalisé parce que vous ne vous entretenez pas de cet esprit de victoire qui coule de la croix. Car tous les chants sur la croix nous parlent tous de victoire. Oui, nous avons pensé que ce message était utile. Même moi, je l'ai pensé, que ce message de la croix était utile au début, pour la vie chrétienne. Qu'est-ce que vous auriez dit si, quand j'ai été à la librairie chercher les livres, j'en avais pris que 2, ou 3, ou 4? Qu'est-ce que vous auriez dit? Vous vous dites, tiens, c'est dommage qu'ils ne les aient pas pris tous les 5. Ils sont payés. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons un Dieu qui a tout accompli, qui a tout payé, et nous sommes là, nous nous privons de cette bénédiction, parce qu'à la croix, je le répète, il y a la bénédiction. Oui, nous obtenons le salut par grâce. Qui ici pourrait se lever et dire, non, le salut, ce n'est pas par grâce? Qui pourrait se lever? Est-ce que quelqu'un peut se lever? Personne. Vous savez tous, si vous êtes convertis, vous savez que nous avons tous obtenu le salut par grâce. Nous n'avons rien à faire sinon demander pardon à Dieu pour nos péchés et prendre ce salut. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est exactement pareil pour la victoire. C'est exactement pareil pour tout le reste. Nous avons besoin de la prédication de la croix. Notre marche chrétienne. Le salut, c'est comme une porte. Jésus est la porte. Bon, c'est facile de franchir une porte. Est-ce que c'est facile? C'est facile. Marcher des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, c'est autre chose, marcher. La vie par l'esprit, c'est une marche, c'est pas une porte. Marcher selon l'esprit, c'est pas juste un acte de foi un jour. C'est une vie continuellement vécue dans cette obéissance. Et d'ailleurs, on va le voir si on a le temps, mais l'apôtre Paul a entendu à un moment de sa vie par rapport à une épreuve, « Ma grâce te suffit ». C'était pourtant quelqu'un qui était très 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 intelligent, lui aussi. Mais Dieu lui fait comprendre que la grâce lui suffira. Et la grâce, nous le savons, elle coule du calvaire. Quand il se débat, vous connaissez l'épître aux Romains. L'épître aux Romains, c'est sûr que ce n'est pas l'épître préférée des chrétiens, et c'est dommage. C'est, quand vous voyez Romains chapitre 6, nous voyons un homme qui explique ce qu'est la délivrance du péché. Bon, ça, c'est facile à comprendre. Il est délivré du péché à cause du sang, grâce au sang de Jésus-Christ. Au chapitre 7, nous le voyons qui se débat avec la loi de Dieu. Avec la loi de Dieu, il est là, il se débat, et puis il en arrive à dire, mais le bien que je voudrais faire, vous connaissez cette affaire, le bien que je voudrais faire, eh bien je ne le fais pas, le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais, il est là, et puis on voit à la fin de ce chapitre que Dieu l'interpelle, et il fait une prière de délivrance, mais misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Là, on n'est pas dans la délivrance du péché, on est dans la délivrance de la loi. Alors, il faut que je vous l'explique. Il y a des sujets qu'il faut quand même expliquer de temps en temps. C'est un homme qui essaie d'obéir à Dieu, mais il essaye d'obéir à Dieu, et il se rend compte que par ses propres forces, il n'y arrive pas. Et ce cri, cette prière, misérable que je suis, est suivie d'une prière de victoire, ou plutôt d'action de grâce. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il se rend compte que par ses propres forces, il ne peut pas obéir à la loi de Dieu. Il lui faut uniquement la grâce du Seigneur. Et tout le chapitre 8 converge là-dessus. C'est par l'Esprit de Dieu, c'est par la grâce de Dieu que l'on va pouvoir obéir au Seigneur. Et nous sommes blessés, nous sommes peinés lorsque nous voyons des chrétiens, bon c'est un peu normal en même temps, mais au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de marche avec Dieu, qui n'arrivent pas à prendre telle ou telle victoire. Eh bien, ils ont besoin de la prédication de la croix. Nous n'avons pas besoin de notre évangile. Et laissez-moi vous dire que un autre évangile vient dans les églises. Paul dit, mais nous ne voulons pas d'autre évangile. Si un ange du ciel, il va loin l'apôtre Paul, vous connaissez l'apôtre Paul. Si un ange du ciel venait et nous annonçait un autre évangile, il n'y a pas d'autre évangile, mais il y a une autre façon de présenter les choses de Dieu. Si un ange du ciel, un ange, je veux dire, vous aimeriez voir un ange? Est-ce que ça vous agréerait de voir un ange, votre ange, celui qui vous protège? Est-ce que vous savez qu'il y a des anges qui vous protègent? Vous le savez? Moi, des fois, je dis, Seigneur, merci pour les anges qui me protègent. Vous pouvez le faire, je pense que ne parlez pas aux anges, mais vous pouvez parler à Dieu. Si un ange du ciel venez et nous annoncez à notre évangile, qui connaît la suite? Qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Parce qu'on n'a pas besoin de notre évangile. On n'a pas besoin d'un faux évangile. Et qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on voit? Et puis vous, qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez toujours à la puissance du sang de Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez vraiment à la puissance de la croix? Ou est-ce que vous êtes en train de dire, bien sûr, il faut faire autre chose, il faut peut-être, comme je le disais, moderniser. Je connais une église, écoutez bien, c'est grave, mais ça me fait peine de le dire. Je connais une église où ils ont accepté, pour avoir l'aide, écoutez bien, mais écoutez, c'est un truc de fou. Pour avoir l'aide de la mairie, ils ont accepté de ne plus prier par rapport à une association pour distribuer des repas, de ne plus distribuer d'évangile. Et à ce compte-là, ils peuvent distribuer des repas tant qu'ils veulent. Mais voilà, interdiction de parler de Jésus. Et ça a été accepté par le conseil d'administration. Sans commentaire. Vous le savez, si vous avez lu la Bible, que la dernière bataille qui viendra sur la terre sera vaincue, sera gagné par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la croix, comme on le chante, restera debout. Vous le croyez que la croix restera debout? Eh oui, croyez-moi. Je le répète, Paul était un homme très instruit. Il a écrit les un tiers ou les deux tiers presque du Nouveau Testament. C'est un homme qui a été utilisé par Dieu d'une manière particulière parce qu'il était doué, parce qu'il était capable, il était féru de plein de choses, etc. Mais cet homme dit à ces intellectuels de Corinthe, je n'ai voulu savoir aucune autre chose que le Seigneur Jésus-Christ, que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Pas autre chose. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y a pas autre chose pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous restaurer. Parce qu'on est peiné de voir tant de chrétiens qui s'attiédissent, tant de chrétiens qui n'ont plus à cœur l'évangélisation, tant de chrétiens qui sont là encore esclaves du tabac. Alors je ne juge pas. On m'a posé la question dernièrement, est-ce qu'un chrétien qui fume est sauvé ? Oui, parce qu'il y a plein de trucs qui courent là-dessus. Moi, je ne pense pas qu'on perd le salut parce que quelqu'un fume une cigarette. Mais quel témoignage, quelle dépendance, quelle misère. Vous ne croyez pas que Dieu est capable de délivrer du tabac ? Est-ce que vous ne croyez pas que... Ah non, j'y arrive pas. Moi, je crois que Dieu est capable de délivrer les chrétiens. S'il délivre les pécheurs, on est là, on croit à la grâce de Dieu pour les pécheurs. On discute avec une prostituée. Ah, mais vous savez, Dieu peut vous pardonner. Vous croyez ? Oui, oui, Dieu peut vous pardonner, mademoiselle, moi je vous le dis. Et puis nous, on ne croit même plus au pardon. Il y a des chrétiens qui se traînent une tonne de culpabilité parce qu'ils ne croient plus au pardon, parce qu'ils ont besoin de revenir au calvaire. Croyez-moi, il n'y a pas autre chose, dit l'apôtre Paul. Il n'y a pas autre chose. Il aurait pu essayer de les toucher avec l'intellect, puisque c'était des intellos. Non, il leur dit clairement la prédication de la croix et la puissance de Dieu. Alors pour certains aujourd'hui, prêcher la croix, c'est de la folie. D'ailleurs, vous qui m'écoutez par internet, vous le savez, dans combien d'endroits aujourd'hui on ne prêche plus la croix. Vous le savez que c'est vrai. Pourquoi ? Parce que c'est de la folie. Mais non, mais monsieur Gau, on me l'a dit ça. Prêcher un homme qui est mort il y a 2000 ans sur la croix, pendu, sanguinolent, vous croyez que c'est ça qui va sauver les hommes ? Eh bien oui, il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. Alors, quand c'est les pécheurs qui font ce raisonnement, ça s'explique. Mais quand c'est les chrétiens qui font ce raisonnement, moi je peux vous dire qu'on est loin de Dieu. Et oui, encore aujourd'hui, si c'est écrit, c'est pour qu'on le comprenne, il y a des gens qui pensent que la folie de la prédication ne peut rien apporter au monde, que les gens aujourd'hui, ils ont besoin d'autre chose. Pour la prêcher à tous ces gens, et je ne sais pas comment vous voulez témoigner aux gens qui vous entourent, mais moi je vous le dis, si vous voulez témoigner efficacement, parlez de ce que Jésus-Christ est mort sur le bois de la croix à votre place. Même si les gens ils vous font des yeux ronds, c'est pas grave, c'est ça que Dieu bénit. Parce que le problème, c'est pas ce que nous on pense, c'est ce que Dieu pense. Est-ce que vous croyez qu'il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication ? Ça plaît à Dieu. Des fois on dit, mais qu'est-ce que c'est Seigneur qui te plaît ? Qu'est-ce que c'est qui t'agrée ? Eh bien moi je vous dis, quand vous dites aux gens, écoutez, Jésus-Christ, parlez pas de venez à l'église évangélique, c'est la meilleure église. Et les gens, ce n'est pas ça qu'ils ont besoin d'entendre. En plus, ce n'est pas vrai. Ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est Jésus-Christ est mort pour vous sur le bois de la croix. Et ça, le Saint-Esprit peut l'utiliser et va l'utiliser pour convaincre les gens de péché. S'ils commencent à dire, oui, venez, vous savez, dans l'église, il y a ceci, on fait cela. Il y a des endroits où on dit, voilà, on joue aux cartes le mardi après-midi. Voilà, on joue aux échecs. Ah oui, on joue aux échecs. Ça, c'est sûr qu'on y joue. La prédication de la croix, ce matin, mes frères et sœurs, c'est pas que pour les perdus. Si vous n'êtes pas sauvés, je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas encore convertis, c'est la prédication de la croix qui vous amènera à dire pardon, Seigneur. Ce n'est pas une belle prédication sur ceci, sur cela, une prédication qu'elle soit maladroite ou pas, à partir du moment qu'elle est baignée dans le sang de la croix et qu'elle est véritable, elle amène les gens au salut et au pardon du péché. Il a prêché la croix. Les Juifs étaient scandalisés. Vous avez vu, les Juifs étaient scandalisés par la prédication de la croix. Et certains le sont encore aujourd'hui. Un homme cloué par les Romains, soit le sauveur du monde, mais n'importe quoi. On l'entend encore aujourd'hui. Pourquoi ? Alors c'est peut-être bien de comprendre, parce qu'il ne faut pas les juger. Il ne faut pas les juger, on n'est pas là pour juger les gens, on est là pour les aimer. Mais regardez dans le Deutéronome, parce que les gens parfois parlent sans comprendre. Il faut comprendre les Juifs, il ne faut pas les mépriser, il faut prier pour eux. Un jour ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé, beaucoup se convertissent, gloire à Dieu. Mais regardez, il faut les comprendre, ceux qui sont scrupuleux par rapport à la loi de Dieu, c'est-à-dire au Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible. Regardez Deutéronome 21, verset 22, voyez ? Il faut comprendre. Il faut comprendre. Deutéronome 21, verset 22. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime, dit Dieu de bord, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui, regardez bien, celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Il faut comprendre ces braves croyants de l'Ancien Testament qui disent, mais comment quelqu'un qui a été maudit par Dieu pourrait être le sauveur du monde? Ne les jugeons pas trop sévèrement. C'est pour ça que de toute façon, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos origines, quel que soit ce qu'on nous a enseigné, il faut revenir à la parole de Dieu, mes frères et sœurs, parce que ce n'est pas la religion qui va vous sauver. Moi, j'ai entendu dernièrement, dans une église, ce n'est pas ici, voilà, seuls les pentecôtistes seront sauvés. Vous voyez comment il y a des gens qui sont spirituels. Je l'ai entendu, je vous le promets, je l'ai entendu. Ne seront sauvés que ceux qui passent par une réelle repentance et par une véritable conversion. C'est ça que la Bible enseigne. Si tu te repens, si tu te convertis, oui, tu seras sauvé. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent... Parce qu'il y a des chrétiens modernistes. Enfin, je vous apprends rien. Je vais vous donner un dernier témoignage. Il y a un monsieur qui m'appelle pour me dire, voilà, je viens de recevoir un couple qui sont pas mariés. Ils aiment Dieu, mais ils ne sont pas mariés. On leur a dit que ce n'était pas grave. C'est vrai tout ce que je vous dis. Ils viennent d'une église, le premier serviteur de Dieu est dans un modernisme tel qu'il a accepté l'homosexualité. Et dans l'autre église d'où venait le gars, il y a un problème 10 fois plus grave encore. Et les gens ne veulent plus entendre parler de la prédication de la croix. Ça fait qu'on en arrive à des dérives, mais on ne peut même pas s'imaginer dans quelle dérive nous sommes tombés. C'est pour ça qu'on ne veut plus parler de la prédication de la croix. Vous avez vu comment dans les églises on fête Pâques. Non mais, avec des œufs au chocolat, dans bien des endroits. Vous avez vu combien c'est demander à certains enfants, j'espère que vos enfants chrétiens, si vous leur demandez la question, si vous leur posez la question, qu'est-ce que c'est Pâques, ils ne vont pas vous répondre, c'est des œufs au chocolat cachés dans le jardin. Qu'est-ce qu'ils vous répondent, vos enfants? Parce que l'éducation, ça dépend de nous. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, je ne suis pas contre le chocolat, ne m'en voulez pas, moi, je l'aime le chocolat. Mais c'est pas, Pâques, ce n'est pas le chocolat. Pâques, c'est la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ qui apporte le salut aux hommes. Et les gens sont devenus fous. C'est écrit dans la parole de Dieu. Vous vous rendez compte? Ces nouvelles méthodes s'appelaient aux gens. Les fluides, la méditation, les trucs extrasensoriels. Moi, on m'en parle des fois, monsieur Godin, l'église. Est-ce qu'on ne pourrait pas débattre sur ceci, sur ça? Ça me fatigue. Moi, je suis persuadé que l'église a besoin de prier pour que dans toutes les assemblées, on prêche la croix du calvaire. Voilà ce que nous avons absolument besoin. Lisez avec moi dans Romains au chapitre 1er. Je vous dis, je ferai une prédication sur la rébellion, pas sur le péché. Le péché, c'est rien à côté de la rébellion. Comment les gens sont devenus rebelles? Parce que le péché, c'est une action. Je pêche, je commets un mensonge. Ah, j'ai commis un mensonge, c'est involontaire ou volontaire. Je l'ai commis, je le répare. Mais la rébellion, c'est beaucoup, beaucoup plus grave. Parce que c'est le cœur de l'homme qui est rebelle. Et aujourd'hui, tout est fait pour nous enseigner la rébellion. Tout, tout est fait. Et les chrétiens deviennent rebelles. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la paix, ça c'est clair. Ça sera une autre prédication. Romains chapitre 1er, verset, on va lire le verset 18. Lisons-le, prenons du temps, c'est beaucoup plus important ce qu'on lit que la prédication en soi. Romains chapitre 1er, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Alors ça ne veut pas dire que Dieu... Cette expression, c'est une façon de parler. Ça veut dire que les hommes n'ayant pas obéi, eh bien, ils se livrent eux-mêmes. Quand un homme prend un virage à 160, on peut dire eh bien, Dieu l'a livré à l'accident. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas respecté la loi de la gravitation. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne l'a pas respecté. On continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé, la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénus au mal. Vous voyez un peu ? Ingénus au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qui connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. Amen. Vous le voyez dans la société, au gouvernement, comment il y en a plein qui approuvent ce qui s'est passé. Il a magouillé, c'est pas grave, après tout, chacun fait ce qu'il veut. Et nous sommes dans une société mais de rebelles. Les enfants n'obéissent pas aux parents, et les épouses ne se soumettent pas à leurs maris, les maris n'obéissent pas à Dieu, les gens ne se soumettent pas les uns aux autres. Mais la rébellion, c'est quelque chose de grave. C'est entrer dans le royaume de Dieu, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont rebelles. Les gens se rebellent contre le policier, et il faut acheter ceci pour pouvoir gratter sur la route et pas se faire piquer par les radars, etc. Mais toutes les autorités qui existent, ont été institués par Dieu. Et même le policier qui ne le sait même pas, que vous le vouliez ou non, c'est une autorité qui a été instituée par Dieu pour que l'on respecte le code de la route. Et la rébellion, moi je vous assure, cette semaine, Dieu m'a beaucoup interpellé là-dessus. Parce qu'il doit y en avoir dans l'Église, il doit y en avoir. Des gens qui sont rebelles et qui ne le savent même pas. Et je vous le dis, la rébellion, c'est beaucoup plus grave que le péché. C'est ce qui a mené Satan, le prince Lucifer, le prince de la lumière, à être éjecté de sa place parce qu'il s'est rebellé contre Dieu. Commettre un péché, ça peut être pardonné. La rébellion, on lira ensemble les textes sur la rébellion dans la Bible, et ceux qui se sont rebellés, laissez-moi vous dire qu'ils ont très, 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 très mal terminé. Et l'esprit de rébellion est dans la société, nous sommes dans une société rebelle, mais faites attention quand vous écoutez un journaliste, même les députés de l'opposition, quand c'est l'un ou quand c'est l'autre, ils vous enseignent la rébellion. Moi, que vous soyez de droite ou de gauche, ça m'est égal. Mais quand un parti est dans l'opposition, il enseigne la rébellion. Écoutez, si vous ne le voyez pas, eh bien, demandez au Seigneur qu'il vous éclaire. Moi, je peux vous dire, c'est exactement ce qui se passe. Le prince de l'air, il agit au travers des médias. Il y a des gens qui passent des heures et des heures devant la télé. Ils ne se rendent pas compte que le prince de l'air leur enseigne comment être de bons rebelles. Et croyez-moi, ça ne donnera rien de tout. Les hommes se vantant d'être sages sont devenus fous. Et dans l'Église du Seigneur, nous avons besoin de chrétiens et de prédicateurs qui soient soucieux d'amener la prédication de la croix, parce que c'est comme ça que la bénédiction de Dieu viendra. Je le répète, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. L'Église doit dire la vérité. C'est ça la vérité. Peut-être que ça ne vous plaît pas. Et pourtant, quelle bénédiction de savoir qu'il n'y a rien à faire, sinon à dire « Seigneur, grâce soit rendue à Jésus-Christ ». C'est lui qui va le faire. Il y a des chrétiens qui rient de la croix. Regardez dans Philippiens au chapitre 3. Vous savez, moi, on ne devrait jamais rire de la croix. Utiliser la croix pour rire. Et dans Philippiens, regardez ce texte. Éphésiens. Dans Philippiens, alors oui, que je ne me trompe pas, c'est le chapitre... Chapitre 3, Philippiens chapitre 3, verset 18. Et il parle à des chrétiens. Chrétien, oui, la croix, d'accord, c'est bien pour les pécheurs, mais regardez, Moi, j'entends de ces choses. C'est grave, mais c'est très grave. Ne nous étonnons pas que le peuple de Dieu ne voit pas le réveil qu'il demande. Philippiens chapitre 3, verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix, de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Mais il y a de quoi pleurer. Moi, je peux vous le dire. Il y a de quoi pleurer parce que ces gens-là vont s'éloigner vraiment de Dieu. Alors, il faudrait lire la suite pour mieux comprendre. Nous devons donc continuer à prêcher ce message. Est-ce que vous marchez en ennemi de la croix ou est-ce que la croix, c'est toujours quelque chose de merveilleux dans votre vie? Est-ce que ça vous a plu qu'on chante des cantiques sur la croix? Tout à l'heure, on n'a chanté que des cantiques sur la croix. Est-ce que ça vous a gêné ou est-ce que ça vous a gré qu'on chante des cantiques sur la croix? Vous savez, il y a des endroits où on ne veut plus chanter sur la croix. On ne veut pas choquer les gens. C'est exactement comme ce qui se passait à Corinthe. On ne veut pas choquer les gens. Mais ces gens-là, il vaut mieux qu'ils soient choqués, parce qu'à partir de ce qu'ils soient choqués ou pas, d'ailleurs, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de comprendre que Dieu sauvera le monde par la prédication de la croix. C'est le seul message que Dieu honore. C'est le seul message qui délivre les gens. Il délivre les fardeaux. Vous avez des fardeaux? Allez au calvaire! Ne le chantez pas avec cœur. Conduis-moi au calvaire. Est-ce que vous croyez qu'au calvaire, n'importe quel chrétien peut avoir la victoire? Et dans cet état d'esprit, vous lirez, c'est compliqué, c'est vrai, mais Romains 6, 7, 8 et 9, on voit bien qu'il y a cette victoire de l'apôtre Paul. Pourtant, l'apôtre Paul, c'était quelqu'un de spirituel, mais il avait besoin de cette révélation que la victoire, elle est au calvaire. Peut-être que vous êtes, bloqué par la paresse. Il y a des chrétiens paresseux. C'est un grave, grave, grave problème, ça, dans l'Église. On s'en rend moins compte dans une Église de 400 membres, mais c'est un problème terrible que de ne rien faire pour Dieu, de dire « Oh, j'ai pas le temps ». C'est un aveuglement. C'est un aveuglement total. Et si vous voulez être, on peut vous prêcher, moi je peux vous prêcher pendant 5 ou 6 dimanches, je peux le faire si vous voulez, sur être fervent d'esprit, je peux vous prendre tous les textes bibliques, levons-nous, bâtissons, je peux prendre tous ces textes bibliques, ça ne fera rien. C'est au calvaire que vous serez délivré de votre paresse, c'est au calvaire que vous serez délivré de votre timidité, c'est au calvaire que vous serez peut-être délivré de l'amertume. J'en ai déjà parlé, mais l'amertume c'est quelque chose de terrible. Combien de chrétiens se sont laissés aller à l'amertume parce qu'ils ont eu, il y a des épreuves terribles dans la vie. Il n'y a pas des épreuves terribles. On n'a pas jugé quelqu'un qui est dans l'amertume, mais on doit lui dire, mais va à la croix, va au calvaire, tu seras guéri. C'est pas va voir un psychothérapeute. Tu vois, mais, alors écoutez-moi, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et ne venez pas me trouver pour ça à la fin, je ne veux pas. Mais moi je vous le dis, c'est au calvaire qu'un homme est guéri de l'amertume. Est-ce que vous le croyez? C'est au calvaire qu'on est guéri de la paresse, de l'adultère. Il y a des chrétiens qui... Moi, quand j'entends des fois un chrétien qui vit dans l'adultère, pour moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et il y a même de ces chrétiens qui continuent à aller à l'église. On voit, il doit y avoir... Moi, je ne sais pas, il me semble, ça c'est une parenthèse dans la prédication. Il me semble que moi, si je vivais dans le péché, je ne pourrais pas aller à l'église. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me suivez? Mais il y a des gens qui vivent dans le péché, dans le mensonge, qui vivent volontairement dans le péché et qui continuent à aller à l'église. Donc pour moi, ils doivent continuer à aimer Dieu, mais ils ont besoin d'une victoire. Ils n'auront pas une victoire parce qu'ils viennent à l'église. Ils auront une victoire parce qu'ils seront convaincus qu'au calvaire, Dieu est un Dieu de délivrance. Et que dans une minute, là, passée dans la présence de Dieu, vous pouvez obtenir la victoire. Que pendant le passage du pain et du vin, vous pouvez dire, mais Seigneur, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est lui qui sauve. Il sauve les pécheurs et il sauve les croyants qui veulent véritablement vivre dans la victoire. Oui, c'est sûr qu'il faut continuer à prêcher l'Évangile. Moi, je crois que certains ont à cœur l'évangélisation, mais ils devraient plutôt commencer à prendre, eux, la victoire au calvaire. Moi, j'ai vu des gens qui... Il faut évangéliser, mais qui avaient besoin d'une délivrance, qui avaient besoin d'une victoire. Ce message, il faut que vous l'entendiez. Moi, je vous assure, toute la semaine, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, Gérard, prêche sur la croix. C'est la croix qu'il faut que les chrétiens réentendent. Bien sûr que la croix, elle peut se présenter sous plusieurs aspects, mais maintenant, il faut que ça soit du concentré pour que les gens soient convaincus. Si vous êtes perdu, Dieu veut vous sauver. Dieu ne veut pas que vous changiez d'église, que vous disiez, ah, tu vois, une fois tu vas à l'église catholique, une fois tu viens ici, une fois... Écoute, faites-le si vous voulez. Mais ce qui vous sauvera, c'est de vous repentir. Et vous pourrez vous repentir parce que Dieu vous bénira. Quand on est touché par la croix, hier on me parlait d'une jeune fille qui a été convaincue de péché dans un avion. Elle s'est mise à pleurer dans un avion. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Moi, je me suis réjoui, moi. Quand Dieu convainc de péché, il vous bénit. Et ce matin, je crois que ce n'est pas que les pécheurs qui ont besoin d'être convaincus de péché. Je crois que parmi nous, beaucoup de chrétiens ont besoin de dire « Seigneur, oui, j'ai besoin d'une victoire. Cette victoire, je l'aurai pas parce que j'entends une prédication supplémentaire. Cette victoire, je l'aurai au calvaire. » Vous le savez. Ce matin, combien je voudrais que quelqu'un puisse prendre une victoire. Parce que la question qui sera posée quand on arrivera au ciel, je ne sais pas comment ça va se passer, mais en fait, je me doute de certaines choses. C'est une question qui va être posée peut-être aux gens. Qu'avez-vous fait de Jésus-Christ crucifié? Parce que croire en Dieu, c'est bien. C'est bien de croire en Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais le sang de Jésus, qu'est-ce que vous en avez fait? L'œuvre de la croix, qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous croyez en Dieu ou est-ce que vous croyez à la puissance de Jésus-Christ au calvaire? Parce qu'il y a des gens qui parlent en Dieu. Je vous ai souvent parlé de ce voisin. Il me disait, monsieur le pasteur, venez, on va parler de Dieu. Alors on parlait de Dieu. Alors je laissais parler, on parlait de Dieu. Et puis, ça allait très bien. Et tu dis, mais oui, mais pour aller à Dieu, monsieur Villel, il s'appelait, pour aller à Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Ah, ne me parlez pas de lui, il me disait. Ne me parlez pas de lui. Je ne supporte pas qu'on parle de Jésus. Vous voyez? Et, mais non, mais moi, je veux bien qu'on parle de Dieu. Oui, parce que Dieu, vous savez, mélange tout aujourd'hui, Dieu, la philosophie, tout est mélangé. Mais qu'avons-nous fait de Jésus-Christ crucifié? Car il n'y a qu'un nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Et la Bible parle du sang précieux de Jésus. Vous savez, 1 Pierre 1, je l'ai marqué, 1:19. Pourquoi il est précieux le sang de Jésus? Est-ce que le nôtre, il est précieux sang? Mais non, parce que notre sang est englué de péché. Nous sommes contaminés par le péché. Tandis que lorsque Jésus est venu par la Vierge Marie, la façon dont il est né, il n'est pas né par la puissance, par un homme. Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Ça aussi, vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Vous savez? Si vous savez tout ce que j'entends là-dessus encore, je ne veux pas alourdir la prédication. Il est précieux le sang de Jésus. L'apôtre Pierre dit, il est précieux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été contaminé par le péché. Et c'est dans le sang de Jésus qu'il y a la puissance du calvaire. Nous, on est là, on est écœurés, enfin, je parle d'une manière générale, les gens sont écœurés, on parle ce sang, oh, que c'est scandaleux, c'est répugnant, mais la bénédiction, elle est là. La folie de Dieu, ça peut nous dépasser, mais en tous les cas, c'est beaucoup plus sage que la sagesse des hommes. La puissance, elle est dans la croix. La puissance, elle est dans ce sang qui coule à Gethsémané, ces grumeaux de sang qui coulent. Elle est là, la puissance. Elle est dans la flagellation. La flagellation, ça je ne sais pas, peut-être que ça vous répugne, j'en sais rien. La flagellation de Jésus, on ne sait pas comment ça s'est passé. Moi, je n'ai pas vu. On m'a dit, est-ce que vous avez vu le film La Passion? Non, je n'ai pas voulu le voir. Parce que pour moi, je n'ai pas eu la paix pour le regarder. Mais je me doute que ça a dû être quelque chose de terrible. La puissance, la victoire. Victoire au nom de Jésus-Christ. Vous l'avez chanté avec ferveur, je vous ai entendu. Mais mes frères et sœurs, c'est la vérité. La victoire, elle est dans la flagellation, dans la couronne d'épines. Là aussi, ça a dû être un moment terrible. Vous rendez compte, cette couronne d'épines qu'on a posée sur sa tête et on tapait sur sa tête. Il a dû vivre des moments terribles. La victoire, elle est là. Vous croyez que si Dieu avait dit « Non, mon fils ne sera pas crucifié », vous croyez que Jésus-Christ aurait pu éviter la crucifixion? Mais bien sûr, il était Dieu, il est Dieu. Et pourquoi il a accepté ça? Pour nous sauver, il n'était pas obligé. Et justement, la grandeur de la croix, la souffrance de la croix, nous montre la grandeur du péché. C'est pas une petite affaire. C'était une grande affaire. C'est pas une petite affaire, le calvaire. Le calvaire, ça vous montre vraiment quelle est la lourdeur du péché, la lourdeur des ténèbres. C'est proportionnel. Et ça s'explique proportionnellement que cette grande souffrance représente un grand péché. Et nous serons vainqueurs par le sang de l'agneau. Dans l'Apocalypse, ne le cherchez pas, au chapitre 12, au verset 11, il est écrit, ils l'ont vaincu, le diable, à cause du sang de l'agneau. Nous serons vainqueurs par le sang du Seigneur. C'est pour cela qu'il vous faut avoir la foi dans le sang du Seigneur. C'est pour cela, relisez les évangiles. Moi j'ai entendu des chrétiens, moi l'évangile, je ne les lis pas, c'est pas pour moi. Je l'entends ça. Mais les évangiles, mes frères et sœurs, ça nous bouleversera tout le temps. Relire la crucifixion du Seigneur, ça devrait nous bouleverser tout le temps. Des religions sans la croix, il y en a plein. Des religions chrétiennes sans la croix, mais il y en a plein. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Des religions soi-disant chrétiennes qui ne sont que des centres sociaux, il y en a plein. Vous trouverez des religions chrétiennes où vous n'entendrez jamais parler de la croix. Mais il faut faire du social, il faut distribuer la soupe aux pauvres, il faut faire ceci, il faut faire cela. Moi, je ne suis pas sûr que c'est ça que Dieu demande. Je vais aller loin s'il faut. Mais la seule chose que Dieu nous demande, c'est de nous approcher de lui. Après, on fera ce qu'il nous demande, chacun. Je comprends pourquoi son joug est doux et son fardeau léger, mes frères et sœurs. Je le comprends vraiment. Oui, la croix montre au monde entier l'amour de Dieu pour le pécheur. La croix montre au monde entier la gravité du péché. C'est bien joli à Noël de parler du petit Jésus dans une crèche, mais ça serait bien de donner tout le fil en entier. Et que la venue de Jésus, ce n'est pas emmailloté dans une crèche, et quoi que c'est lamentable, qu'on n'ait même pas trouvé une chambre pour lui. Ça vous montre un petit peu comment les gens ont accueilli Dieu sur la terre. Et comment commencer aujourd'hui. Ça aussi c'est notre sujet. Le but de la croix, c'est le pardon des péchés. Le but de la croix, c'est la victoire pour les chrétiens. Quelqu'un ce matin a-t-il besoin d'une victoire? Répondez-vous à vous-même. Mettez-vous vraiment dans cet état de cœur. Mettez-vous dans cet état de cœur sérieux. Parce que pour être spirituel, il faut prendre les choses spirituelles à cœur. Lorsque vous voyez un bon footballeur, laissez-moi vous dire, je ne parle pas de sa moralité, je parle de sa qualité dans le foot. Quand vous voyez certains sportifs, je peux vous dire qu'ils ont pris à cœur l'entraînement. Si nous voulons être des chrétiens spirituels, il faut prendre à cœur ces choses. Il ne faut pas analyser une prédication et dire c'est bien, c'est très intéressant. Écoutez-moi, ce matin, vous et moi, nous devons être capables de dire, oui, j'ai besoin de telle victoire, d'une victoire, de deux victoires. Dieu peut vous les donner tout en même temps. Moi, je le crois vraiment que la grâce de Dieu peut répondre à tous les problèmes. Nous chantons très régulièrement de la croix, la grâce coule. D'ailleurs, Alexandre l'avait préparé. Peut-être on le chantera tout à l'heure pendant la Sainte-Cène. Mais qui croit ce matin que Dieu peut tout accomplir par la prédication de la croix, qui croit que Dieu peut délivrer n'importe qui, n'importe quel péché, n'importe quel pécheur, n'importe quel esprit de rébellion, n'importe quel esprit d'adultère. Je n'aime pas trop employer l'esprit d'adultère parce que certains confondent avec les mauvais esprits. Mais qui croit ce matin à la puissance de Dieu? Qui croit ce matin? Est-ce que vous pouvez dire oui, je crois comme Paul que moi je n'arriverai pas à le faire. Je ne peux pas y arriver. Et on peut tous dire, en toute simplicité, misérable que je suis. Je suis fatigué, j'en ai marre de me débattre, j'essaie d'avoir la victoire. Eh bien, c'est Romains chapitre 7. Mais il faut passer au chapitre 8. Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Il le dit, j'en ai parlé il y a un an ou deux. La loi, il a une révélation. Il dit, mais la loi de l'esprit de vie m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Vous connaissez cette parole? Eh bien, c'est une des plus grandes clés du Nouveau Testament. La loi de l'esprit de vie. C'est-à-dire que la puissance de vie, la puissance de la croix, est une. Le péché, c'est une loi. Je répète. La loi de l'esprit de vie m'a délivré de la loi du péché. Le péché, c'est une loi. C'est pour ça qu'on ne peut rien faire par. Humainement, on ne peut pas contrecarrer cette loi. La loi de la gravitation, c'est une loi. Si je laisse tomber le livre, vous le savez, que vous soyez ici, que vous soyez en Polynésie, que vous soyez de n'importe quel endroit de la Terre, à cause de la gravitation, vous êtes obligé d'accepter cette loi. Le péché, c'est une loi. On ne peut pas y arriver tout seul. On peut essayer, c'est comme un gars qui pousse une voiture. Oui, on peut avancer, mais est-ce qu'on peut avancer avec une voiture sans essence? Non, on peut avancer. Ça prend un peu plus de temps. Vous rentrez chez vous, essayez à rentrer, Monsieur Cano, vous rentrez chez vous en poussant la voiture. Vous allez y arriver. Mais vous allez y arriver. Mais vous pouvez aussi avoir de l'essence et une clé. Et ça, vous allez voir, c'est quand même plus facile. Mais c'est exactement la même chose. C'est qu'on fait les choses par nos propres forces. Alors on y arrive. On y arrive parce qu'on est costaud et parce que Dieu nous fait du bien. Donc on a de la force pour pousser la voiture et on avance. Mais moi je vous dis qu'il y a quand même mieux. Et Paul parle de cette victoire comme d'une loi. C'est une loi. Vous ne pouvez pas. C'est pour ça que les chrétiens sont malheureux. J'arrive pas. C'est Romains 7. Je n'y arrive pas. Mais grâce soit rendue à Dieu. Après, je l'ai dit, c'est une marche. Il faut continuellement vivre de la grâce. Quand Paul voulait être délivré de son écharde, Dieu lui a rappelé ce qu'il nous rappelle ce matin. Ma grâce te suffit. Vous voulez être dans la victoire? Ne cherchez pas à droite à gauche. Seigneur, je compte sur ta grâce. La loi, cette loi de la gravitation, elle peut être vaincue par la loi de la poussée. Vous avez vu, j'en ai parlé déjà, les avions ou les oiseaux. Demandez à un oiseau. Demandez à parler, discutez avec un oiseau. Dites, est-ce que tu connais la loi de Newton? Essayez. Non, je vais bien. Est-ce qu'un oiseau s'inquiète de la loi de Newton? Il vole. Parce que c'est une loi pour lui de voler. Vous me suivez? Et pour nous, si nous voulons vivre dans la victoire, écoutez-moi mes frères et sœurs, je vous le dis, c'est pas moi qui vous le dis, c'est Dieu qui vous le dit. Si nous voulons vivre dans la victoire, si nous voulons être délivrés, non pas du péché avec un grand P, c'est déjà fait pour tous j'espère, mais si nous voulons être délivrés du pouvoir du péché qui nous colle à la peau, il nous faut vivre dans la grâce de Dieu et uniquement dans la grâce de Dieu. Tout est par grâce. Le salut, c'est par grâce. Personne, je l'ai dit, le salut, c'est par grâce. La vie avec Dieu, c'est par grâce. Alléluia. Et nous devrions vraiment dire, mais Seigneur, c'est pour ça qu'il faut rester dans la présence de Dieu. Moi, vous voyez, depuis que j'ai l'AVC, depuis que j'ai fait l'AVC, bon, ça va quand même un peu mieux. Mais mes frères et sœurs, j'ai compris pourquoi j'avais fait cet AVC. Parce qu'à la place de courir à servir Dieu à tout vent, ce que je faisais, en plus, c'était pas frustrant parce que je le faisais de tout mon cœur. Mais on me demandait tellement, monsieur Gou, allez ici, monsieur Gou, il y a longtemps que vous n'avez pas vu telle sœur, allez-y, monsieur Gou, il y a longtemps que vous n'avez pas fait ça, faites-le. Je le faisais, mais je crois que Dieu l'a su, me dit arrête-toi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce que tous les prédicateurs ont besoin, c'est de se tenir dans la présence de Dieu, pour recevoir la pensée du Seigneur. Voilà ce à quoi je suis appelé. Je suis appelé à cela et je voudrais que ces choses amènent la bénédiction partout, que ces choses amènent la bénédiction dans cette église, que ce matin nous soyons à la croix là, dans la victoire, que ce ne soit pas juste dans le pain et le vin, comme une femme un jour est venue pendant un moment, elle venait à l'heure de la Sainte-Cène, elle me dit je prends le pain et le vin pour être en communion avec Dieu, et après le pain et le vin elle partait, et un jour je lui ai dit mais écoutez, soyez sérieuse. Vous croyez que parce que vous prenez le pain et le vin, vous êtes en communion avec Dieu? Oui, je suis en communion avec Dieu parce que je prends le vin. J'ai essayé de lui expliquer, bon, elle est partie. Elle est partie parce que je n'étais pas spirituel. Alors, mes frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on prend le pain et le vin qu'on est spirituel. Mais le pain et le vin nous rappellent chaque fois la croix, ce sang versé. Ce pain et ce vin nous rappellent vraiment la puissance du calvaire. Qui ce matin croit que le joug du Seigneur, il est doux? Et le fardeau léger. Vous savez, l'autre jour, je réfléchissais quand Jésus a dit, mais venez à moi. Vous savez que ça fait des mois que je prêche là-dessus. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions et vous trouverez du repos. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors le joug, vous le savez, j'aurais dû faire mettre la vidéo, c'est une pièce de bois qui unit deux animaux, à l'occurrence deux bœufs ensemble. Et pourquoi? Pour travailler. Et Jésus dit, mais mon joug est doux, mon fardeau léger. Dieu veut qu'on soit unis à lui pour servir. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui est en communion avec Dieu? Écoutez-le bien s'il vous plaît. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui marche avec Dieu? Il est uni avec lui et il sert avec lui. Mais il ne fait que ce que Dieu lui demande. C'est pour ça que ça semble paradoxal. Mais il dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Quand vous vivez par la grâce de Dieu, le joug est doux et le fardeau léger. Parce que quand c'est lui qui est à côté et qui porte tout, c'est facile. L'autre jour, on marchait avec ma femme. On était au bord d'un petit ruisseau. On marchait. Et elle était partie très équipée parce qu'il devait pleuvoir et ceci. Alors elle avait un gros manteau, elle avait un parapluie, elle avait des affaires. Et au fur et à mesure qu'il faisait beau, elle me dit, tiens, tu peux porter ça. Tiens, tu peux porter le parapluie. Tiens, tu peux porter mon manteau, etc. Et j'ai dit, tu vois Isabelle, c'est ça exactement l'image du joug. C'est qu'on marche à côté de lui, mais c'est lui qui porte tout. C'est le Seigneur qui porte tout. Vous le croyez? C'est pour ça que Jésus dit son joug est doux. Mais le problème, c'est que beaucoup avancent, ils poussent la voiture. Merci Seigneur, tu me donnes des forces pour pousser la voiture. Moi, je vous dis qu'il y a mieux. Beaucoup de gens ne servent plus Dieu, ils n'ont pas le temps, le boulot, ils sont aveuglés. Et moi, je vous le dis parce qu'un jour, vous passerez devant Dieu. Je suis dans l'assemblée pour ça. Un jour, vous allez passer, nous allons passer devant Dieu. Et je rendrai compte pour cette prédication, et vous vous rendrez compte, est-ce que vous voulez servir le Seigneur? Peut-être que vous ne servez pas le Seigneur, vous n'avez pas le temps, mais parce que vous n'êtes pas sous son joug. Mais mes frères et sœurs, c'est peut-être la victoire qu'il vous faut ce matin. Ce n'est pas sur l'amertume, ce n'est pas sur l'adultère, ce n'est pas sur le péché, l'alcool, le tabac, j'en sais rien. Mais c'est peut-être sur cette illumination du Saint-Esprit. Mais Seigneur, il faut que je marche à côté de toi. Et je pourrai le faire que par ta grâce. Que par ta grâce. On va fermer les yeux. Je voudrais vraiment qu'on le fasse, mais consciencieusement. Qu'on prenne le pain et le vin. Voilà, un frère veut bien. Vous voulez bien choisir des frères, s'il vous plaît? Je voudrais que vous soyez, que nous soyons vraiment sérieux. Il y a trop de légèreté. Vous voyez, il y a trop de rébellion dans l'Église. Il y a trop de rébellion dans les cœurs. Quand je vois comment certains parlent des politiciens, de la droite, de la gauche, des policiers, des autorités, de leurs parents, de leurs maris, des pasteurs. Mais ne nous étonnons pas que cet esprit d'apostasie est dans l'Église. Et la seule alternative, ce n'est pas 10 prédications sur la soumission, ce n'est pas 10 prédications sur le service. La seule victoire, elle est dans le sacrifice du calvaire. Alors, oui, les frères et les sœurs, ce matin, je sais que plusieurs, vous avez besoin de revenir au calvaire. C'est vrai que c'est un très, 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 très beau cœur. La mélodie est merveilleuse. Conduis-moi au calvaire. Mais il ne faut pas que ça reste une belle mélodie. Il faut que dans vos moments de communion avec Dieu, vous redécouvriez la grâce. Hier, on discutait avec les anciens, on parlait de ce verset. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Mais laissez-moi vous dire que l'inverse est vrai. Que si on ne lui résiste pas, il ne fuit pas. Et c'est pour ça que l'Église est fragile. Que l'Église n'évangélise pas. Que l'Église ne fait pas ce qu'elle devrait faire. Mais un mot, un regard de Jésus. On l'a vu mardi. Un regard et Pierre a été conduit à pleurer. Une main de Jésus. Sur le corps d'une jeune petite. Petite de 12 ans qui venait de mourir. Sa main. Et la voix du Seigneur a ressuscité cette petite. Quand il y a Jésus, il y a la grâce. Et je pense vraiment que beaucoup parmi nous avons besoin de revenir à la grâce, de ne pas faire des cultes formalistes, de dire Seigneur, c'est ta grâce, oui. Oh, combien je voudrais pousser le même cri de victoire que l'apôtre Paul. Grâce soit rendue à Jésus-Christ, à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Qui ce matin veut pousser ce cri de victoire dans son cœur? Qui ce matin veut dire, mais c'est vrai, ce vin me rappelle qu'il t'a plu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et même si on vous prend pour des fous, parce que vous parlez du sang de Jésus-Christ, de son œuvre au calvaire, ne vous inquiétez pas, ça plaira à Dieu. Faites-le intelligemment, mais je crois que Dieu peut le faire. Je vais demander aux frères, aux sœurs, mais joyeusement, de se lever à leur place. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur, qui se sont fait baptiser. Vous qui êtes là dans ce lieu, levez-vous avec fierté devant Dieu. Et oh Seigneur, je suis heureux de me lever devant toi. Et vous qui ne vous leverez pas, vous qui n'êtes pas encore convertis, qui n'êtes pas passé par la repentance, profitez de ce moment pour dire, oh Seigneur, sauve mon âme. Ce n'est pas Dieu qui va vous sauver. C'est vous. C'est Dieu qui va vous sauver, mais ce n'est pas Dieu qui se repentira à votre place. Ce n'est pas Dieu qui se convertira à votre place. C'est vous qui vous repentirez. Alors repentez-vous, si vous êtes dans votre péché, si vous êtes dans votre souillure, repentez-vous et le sang de Jésus vous purifiera. Que le nom de Jésus soit béni.